Vous écoutez France Culture. Les villageois avaient beau avoir oublié le rituel et la boîte noire des premiers temps, ils se rappelaient qu'il fallait utiliser des pierres. Mauvais genre qui se consacrera ce soir à un des plus grands écrivains américains, la conteuse fantastique Shirley Jackson, née il y a un siècle, l'année 1916, auteur de chefs-d'œuvre romanesques comme Nous avons toujours vécu au château ou La maison hantée. Elle excella dans l'art de la nouvelle, dont l'une, classique sulfureux, La loterie, sort en adaptation chez Casterman, adaptée et dessinée par son petit-fils, le dessinateur-illustrateur Miles Simon. Chronique également dans cette émission de l'excellent Monsieur Désir, de Hubert et Augustin, BD sortie chez Glénat, et de L'origine du monde, Lille Strongvist, une parution Rackham. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un mauvais genre entièrement consacré ce soir à Shirley Jackson. Et j'en suis absolument ravi parce que c'est une occasion que j'attendais depuis longtemps pour parler de cet immense écrivain. D'autant que nous allons en parler avec son petit-fils, Miles Simon. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avec nous parce que sort, donc je le répète, aux éditions Casterman, La loterie. Alors La loterie, pour les Français, c'est La loterie. Pour les Américains, c'est autre chose puisque c'est une nouvelle et parmi les plus fameuses, les plus célèbres de votre grand-mère, Shirley Jackson, une nouvelle dont on va parler, puisqu'on va décrypter votre travail, mais dont on va également raconter l'histoire, puisque c'est une nouvelle qui, un peu à la façon des Martiens d'Orson Welles, a profondément choqué sur l'instant les Américains. Je n'en dis pas plus, ce sera au long de Mauvais Genre. Ce soir, nous en parlerons avec Hélène Frappa. Bonsoir.
Bonsoir.
Chaque fois qu'il est question de gothique, de sublime, de fantastique féminin, vous êtes là, c'est très bien. Je suis heureux de vous retrouver à l'antenne de Mauvais Genre. À Shirley Jackson, c'est pour vous une compagnie de route, mais une fréquentation régulière.
C'est un maître, c'est une de mes écrivains préférés depuis longtemps. C'est le souvenir d'une de mes plus belles nuits d'insomnie à la lecture de Maison Hantée. C'est vraiment quelqu'un qui m'a aussi appris à écrire. À vivre, peut-être pas. À ne pas dormir, mais à écrire, certainement.
Elle ne fera pas romancière. Vous êtes en travail d'un roman, comme on dit, mais traductrice, on peut lire des traductions. De nombreux fans peuvent lire vos traductions en attendant vos romans. C'est donc chez Actes Sud, on peut citer le dernier paru.
La dernière traduction parue, le cinquième évangile, et bientôt un très très beau premier roman australien, Borderline, qui sortira dans quelques semaines chez Actes Sud aussi.
Et dont nous parlerons à Mauvais Genre, puis on peut vous entendre parler de cinéma dans des endroits divers et variés. Je pense qu'on pourra s'en faire l'écho. Bonsoir Arnaud Gonzague.
Bonsoir, bonsoir.
Arnaud Gonzague, journaliste à l'Obs et puis partenaire média, au label Expression, de c'est Mauvais Genre, de France Culture.
Charmante expression, effectivement.
En tout cas, compagnon de route de Mauvais Genre, et avec nous ce soir pour parler de Shirley Jackson, bien sûr.
Absolument.
Sans problème. Ah oui, absolument. Et puis également, de Monsieur Désir. Alors j'ai eu l'occasion, moi, d'en parler tout peu dans le tout petit matin de France Culture. C'est une totale réussite. Ça paraît chez Glénat, une histoire curieuse.
Oui, comme on n'en lit plus beaucoup, je trouve, avec une cruauté qui est assez anachronique, que j'aime beaucoup. Oui.
Voilà, entre un dandy pervers anglais et puis une toute simplette chambrière, mais qui va gagner, c'est pas celui auquel on s'attend, puisqu'effectivement, elle a des ressources que l'autre n'a pas. Voilà, donc, Mauvais Genre ce soir, entièrement consacré à Shirley Jackson, la maîtresse en écriture de gens comme, ma foi, Neil Gaiman, Stephen King, Clive Barker. On peut dire qu'elle est un petit peu la marraine de toutes ces générations d'auteurs.
Effectivement, oui, il y a toute une génération. Notamment, vous avez cité Stephen King, qui a même qualifié un des passages de La maison hantée comme étant un des plus grands, si ce n'est pas le plus grand, de la littérature américaine.
Eh bien, nous irons ce soir dans La maison hantée, en votre compagnie, à la rencontre de l'univers de Shirley Jackson. Mais avant cela, bien évidemment, nous ouvrons l'encyclopédie pratique des mauvais gens avec notre Shirley Jackson, qui est Céline Duchesne. Bonsoir.
Bonsoir François. La lettre M comme Morel, Marie Morel.
Les premières traces des sorcières, c'est Bruegel l'Ancien qui a dessiné une estampe sur lequel il y avait une sorcière sur un balai. Et c'est la première trace dans l'histoire de la peinture d'une image de la sorcière. Voilà, il y a eu des écrits avant sur les sorcières en 1460, voilà. Il y a un écrit qui s'appelait L'Osculum infâme. Et cet écrit racontait que des femmes baisaient l'anus du diable. Et on les a appelées des sorcières. Mais ça, c'était des écrits. Alors que Bruegel, qui était le successeur de Jérôme Bosch, si connu, et qui faisait aussi des personnages incroyables, Bruegel l'Ancien, lui a dessiné une sorcière.
Des sorcières, il en est question dans la grande peinture que Marie Morel expose en ce moment au musée Chantreuil à Pont-de-Vaux, dans l'Ain, mais pas que. Cette peinture de 15 mètres de long est composée de 400 portraits de femmes des siècles passés qui ont toutes réalisé une œuvre artistique ou scientifique ou qui ont, par leur démarche, apporté quelque chose au monde sans pour autant que l'histoire, la grande histoire, n'ait gardé leur nom en mémoire. 400 femmes que Marie Morel a représentées chacune à travers un portrait, des commentaires, des dessins et de petits objets. Et on est loin de l'encyclopédisme car c'est aussi une plongée dans le monde singulier et délicat de cette peintre. Une artiste qui n'a pas froid aux yeux et dont j'avais déjà parlé à ce même micro au sujet de ses peintures érotiques exposées par exemple en 2009-2010 à l'Halle Saint-Pierre à Paris. Mais revenons-en à cette grande peinture, les femmes des siècles passés et plus particulièrement aux femmes sorcières.
Moi, je ne les ai pas du tout dessinées en sorcières parce que moi, j'y crois pas du tout. Donc moi, c'est des belles femmes intelligentes comme elles étaient sûrement et libres et avec des longs cheveux très belles. Il y en a une qui m'amuse parce qu'elle s'appelait Michée Chauderon. Et Chauderon, en fait, cette femme Chauderon préparait dans un petit chaudron des soupes blanches. Donc mon portrait est fait, il y a cette femme, j'ai retrouvé qu'une gravure, donc je ne sais pas vraiment comment elle était. Et dessous elle, j'ai fait un grand chaudron et elle s'appelait la soupe blanche. Et cette soupe avait des vertus thérapeutiques, donc elle soignait les gens. Et malheureusement, il y a dû y avoir quelqu'un qui est mort pour autre chose. Mais tout de suite, on l'a accusé de sorcellerie et d'être en relation avec le diable. Et elle a été aussitôt pendue, puis brûlée. C'était en 1602 qu'elle est née et elle était en Suisse. Donc elle a été brûlée parce qu'elle pratiquait une médecine naturelle. Après, il y a Adrienne d'Heure, qui était une Française. Et elle a été arrêtée parce qu'elle avait une sexualité assez libre. Comme elle était très cultivée et intelligente, lors de son procès, elle trouvait toujours la phrase qu'il fallait dire pour ne pas être brûlée. Parce qu'elle a été très très subtile. Mais malheureusement, ils lui ont fait le test de l'aiguille, qui est, on enfonçait dans la femme une aiguille, une horrible aiguille, et si la femme n'avait pas mal, c'est qu'elle était envoûtée par le diable. Et si elle avait mal, on continue à la piquer jusqu'à ce qu'on trouve un point où elle est pas mal. Donc dans le dos, elle a eu un point où elle a pas eu mal, et hop, allez, sur le bûcher.
Elles ont beaucoup de choses qui pourraient vous plaire à vous, que ce soit cette forme de liberté, la liberté aussi dans la sexualité, la liberté dans le choix de vie. Ça ne peut que vous toucher, vous connaissant un petit peu.
Oui, parce que, par exemple, elles étaient dans l'érotisme, elles inventaient des nouvelles positions pour faire l'amour. L'église n'avait qu'une sorte de position et elle trouvait qu'on pouvait faire l'amour autrement. Voilà, elle pensait aussi que la sodomie était une chose intéressante, mais il n'y a pas que la sexualité, c'était des femmes qui avaient une certaine culture et qui avaient une culture qui leur permettait de mettre repenser les choses, repenser la religion, repenser la médecine et amener des idées nouvelles. Donc elles étaient exceptionnelles. Mais je pense que si un jour, parce que la société bascule très facilement dans la stupidité, et que si un jour on recommençait à trouver que les gens qui parlent trop de l'érotisme ou qui ont des idées trop en dehors du système soient des sorcières, je serai aussitôt sur le bûcher, ça c'est sûr. Ce serait très très désagréable.
« Pour en savoir plus sur Marie Morel, vous pouvez vous rendre sur son site internet www.mariemorel.net ou aller au musée Chantreuil à Pont-de-Vaux dans l'Ain, où Marie Morel expose actuellement cette grande peinture consacrée aux femmes des siècles passés, à voir jusqu'au 30 octobre 2016 dans le cadre de l'exposition « Très portraits ».
Merci Céline, donc, pour cette entrée Marie Morel de l'Encyclopédie pratique des mauvais gens. Parmi ce qu'on raconte d'un auteur qu'on connaît mal, j'ai lu souvent que Shirley Jackson prétendait être une sorcière.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai.
C'est une mythe qu'elle entretenait jusqu'à la fin de sa vie. Elle était déjà très, très intriguée par les procès des sorcières de Salem. Mm-hmm. Elle a même dédié un livre à ces événements. Mais elle entretenait ça d'une façon beaucoup plus légère avec ses amis. On disait qu'elle avait un livre de sorts caché chez elle, qu'elle pouvait jeter des sorts sur les gens. Ce qui faisait peur à certaines personnes et qui amusait beaucoup d'autres. Elle avait notamment une blague avec un des éditeurs du New Yorker où elle disait qu'elle pouvait jeter un sort sur le Brooklyn Dodgers selon l'importance du match du soir.
Quand même peser sur le destin du sport américain. Extraordinaire, Shirley Jackson. Alors promenons-nous dans les bois en espérant que le loup y est. C'est tout ce que je vous souhaite si vous êtes à Rennes entre le 19 et le 23 octobre, car en effet s'y tiendra au cinéma TNB de Rennes, donc le festival Court-Métrange 2016, qui est un festival du court-métrage fantastique. Et j'aurai pour ma part le plaisir de m'y trouver mercredi soir, 19 octobre à 18h30, au Champ Libre, où je prononcerai une conférence, n'est-ce pas, sur la forêt fantastique. Je suis en train de fourbir mes armes, donc ne ratez pas ce festival qui promet pas mal de choses, notamment toute une réflexion autour de l'écriture, de la production du cinéma de genre, la rencontre avec un festival slovène, le festival Grossman, grand festival, un peu l'équivalent slovène de l'étrange festival, et puis des rencontres avec certains cinéastes comme Robert Morgan, voilà, du 19 au 23 octobre à Rennes, c'est le festival Court-Métrange 2016. Mais l'heure est venue maintenant pour nous, eh ben écoutez, d'entrer dans la maison hantée. Voilà, les initiés auront reconnu Housebound de Demigod par GH, un choix sorcier de Laurent Polleret pour notre playlist sorcière de ce soir dans Mauvais Genre. Alors, Shirley Jackson, on peut lire cette adaptation de la loterie que vous avez faite, Maïs Savane, chez Casterman. On peut lire les nouvelles traductions qu'a procuré Rivage, donc dans la collection Rivage Noir. On va en reparler. Mais je pense qu'il est nécessaire auparavant de la présenter, puisqu'elle est largement, notoirement méconnue quand même par les lecteurs français. Alors, elle meurt très jeune, 49 ans.
Oui, très très jeune.
Et c'est son centenaire cette année, née en 1916. Et quand on regarde son existence, il n'y a pas là de frasques, de coups de théâtre, je dirais de sorcellerie au sens classique du mot. C'est une vie au contact de l'étrange, de la singularité intellectuelle d'abord, mais un peu rentrée, un peu intérieure.
Oui, et puis c'est quelqu'un tout le long de sa vie, de sa carrière, à jongler sa vie professionnelle de romancière et sa vie familiale. Elle était mère de 4 enfants et elle chroniquait aussi cette vie-là. Donc elle a, certains disent qu'elle a une carrière schizophrène, je préfère dire ambidextre. Elle avait cette capacité de parler de sa vie quotidienne et aussi de nous plonger dans des histoires absolument épouvantables. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours un petit peu l'un chez l'autre. Et ça fait d'elle, je crois, un écrivain très dynamique et intrigante.
Elle a un parcours assez classique d'étudiante en lettres, oui, d'enseignante, et puis après de romancière, de noveliste. Elle joue qu'elle a un destin de femme de lettres américaine assez classique sur ce plan-là.
Un destin, je ne sais pas, parce qu'elle est née à Burlingame, qui est un banlieue chic de San Francisco. Et c'est elle a décidé à 16 ans, je pense, de partir à l'université, déjà au lycée où elle vivait en dortoir, mais après à l'université où elle a rencontré mon grand-père. Et elle était très vite passionnée par cette possibilité qu'elle puisse devenir romancière.
Et qu'est-ce qui l'a amenée à l'écriture ? Est-ce qu'elle écrit, elle a tout écrit de toujours ? Est-ce qu'elle a eu certaines lectures phares, fantastiques notamment ?
Alors, je lisais justement parmi ses influences, il y a François Villon, il y a beaucoup de, il y a de littérature française, beaucoup d'anglaise. Elle était intriguée de, notamment des chansons anciennes anglaises, ces horribles contes chantés de meurtres et d'assassinats. Toujours des drames absolument sordides, ça l'a passionnée depuis l'enfance. Je sais aussi, parce que j'en ai, qu'elle était, elle lisait beaucoup les histoires d'Oz de Frank Baum, toute petite, donc où il y a toujours ce côté magique qui est présent, c'est un peu le Harry Potter de l'époque. Et donc voilà, elle lisait énormément, elle écrivait très jeune. Elle tenait des journaux intimes. Et puis surtout, elle écrivait énormément de lettres à ses amis. Beaucoup de ces lettres ont été recueillies et gardées et publiées.
Elle ne fera pas.
Moi, j'ai lu récemment, il y avait un article dans le New York Times sur une biographie qui j'espère, paraîtra bientôt en France, qui a l'air très intéressante, que votre grand-père l'avait, enfin que leur relation, leur amour était né à partir de l'écriture. C'est-à-dire qu'il avait été séduit par cette femme avant même de la rencontrer en la lisant.
Oui, apparemment, il a découvert une de ses nouvelles qui était dans le journal de l'université, où ils étaient ensemble à Syracuse, et il était tout de suite, il est tombé amoureux d'elle à travers ses écrits.
Donc elle a c'est une sorte d'envoûtement, comme elle provoque en effet, comme son écriture provoque.
Tout à fait.
Alors qu'à la différence des sorcières traditionnelles, elle ne vivait pas recluse dans une petite chaumière ou dans une grotte, mais elle a été mariée, donc plusieurs enfants, puisque vous êtes son petit-fils avec Hyman, donc
Stanley Edgar Hyman.
Stanley Hyman, qui était à la fois critique littéraire réputé, musicien de jazz, et donc qui vivait au sein d'une communauté culturelle extrêmement bourdonnante, extrêmement grouillante, avec des gens très 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 célèbres qui les fréquentaient, donc il n'y avait pas non plus de réclusion et de solitude. C'était des gens très sociaux et très...
Très sociaux.
Très présents.
Très sociaux. Dès le début des années 40, je crois, Stanley, donc mon grand-père, était engagé à Bennington College, qui à l'époque était un des foyers d'une certaine vie intellectuelle très intense. Il y avait Bernard Malamud, Howard Nemiroff, il y avait beaucoup d'écrivains qui passaient par là, Dylan Thomas, qui a passé des week-ends très endiablés chez mes grands-parents, apparemment. Et oui, donc c'est une vie sociale et intellectuelle extrêmement vive, extrêmement... fertile, et je pense a beaucoup influencé ce qu'il a écrit, comme elle a influencé beaucoup de gens autour d'elle.
Alors, sur le plan de l'écriture, comment arrivait-elle à ménager un travail d'écrivain au sein d'une vie sociale et d'une vie familiale assez lourde? Elle arrivait quand même à trouver le moment d'écrire, et comment ce processus d'écriture, quel était le sien?
C'est quelque chose qu'elle décrit très souvent, déjà dans ses nouvelles sur sa vie familiale. C'est un peu le défi perpétuel, c'est comment trouver le temps d'écrire et de préparer le déjeuner à temps pour le retour de l'école des petits. Et c'est presque, je dirais même, le sujet, si on regarde globalement sa carrière, c'est un peu le sujet, cette lutte, surtout pour une femme des années 40, 50, on pourrait dire même maintenant, mais surtout à cette époque, cette difficulté de faire cohabiter une vie professionnelle et une vie domestique. Elle racontait avec une ironie à peine retenue quand elle est arrivée pour accoucher de son troisième enfant. Le médecin a demandé sa profession, elle a dit romancière, et il a répondu « il vaut mieux que je mette femme au foyer ». Et il y avait une sorte de refus de l'idée qu'une grande romancière pouvait également avoir une vie de famille.
Alors, les sujets qui ont été les siens, qui sont des sujets de fantastique, de hantise, de malédiction, fantastique noire, extrêmement intense, d'autant plus qu'elle était elle excellait dans la forme courte. Où les trouvait-elle? Est-ce qu'elle les empruntait à des accidents de la vie, à des lectures?
Son style.
Son style et ses sujets, surtout.
Ah bah, je pense que les sujets, on a toujours du mal à savoir d'où ça vient. C'est quelqu'un qui était, je pense, naturellement tourmenté, c'était son caractère. Quelqu'un qui luttait jusqu'à la fin de sa vie avec ses angoisses. Je pense qu'écrire était une façon pour elle de justement trouver un format où elle pouvait exprimer ses angoisses et ses peurs. Son style on va dire que peut-être les influences des chants, the child ballads, les ballades child, je ne sais pas comment on le traduit. Il y a une sorte de brévité. Oui, enfin c'est des comptines peut-être dans le fond, mais le sujet est très
tout à fait
grave et abominable. Mais il y a une économie dans le langage qu'on retrouve très vite chez elle. Dès ses premières nouvelles, elle met au point une musique dans le langage écrit qui est très particulier. Elle a une capacité de faire des phrases très courtes, très simples, et pourtant qui sont glaçantes. Et c'est un talent assez extraordinaire. La loterie est pour moi un des meilleurs exemples.
Alors, c'est dû à quoi? À l'agencement des mots, puisque même dans la traduction, là je relisais par exemple La Maison Hantée, nouvelle traduction chez Rivage, on est sidéré par le caractère agencé, c'est de la marqueterie. Je veux dire, il y a pas un espace possible entre les mots. Il y a pas de vide. C'est d'une plénitude permanente, tout est dense, et en même temps elle pratique un art de l'ellipse. Donc c'est à la fois dans le choix, la cadence de la phrase, le choix des mots.
Le choix des mots juste. C'était une obsédée de la ponction. Elle était très 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 attentionnée à l'utilisation des points et des virgules justement au bon endroit et jamais un trop. Et puis, cette façon d'arrêter une phrase toujours en deçà de là où on pensait aller, de façon à nous priver toujours de ce petit bout d'information qui va nous dire où on va.
La laisser battante, comme on parle d'une fenêtre, la laisser la phrase battante ou la phrase un peu comme un pont qui ne s'achèverait
qui
pas.
Qui est coupé un peu trop vite. Et qui fait qu'on est toujours un petit peu mal à l'aise en lisant, sans savoir pourquoi.
Tu avais le sentiment d'un apic des phrases, hein. Il y a une frappe chez Shirley Jackson.
Oui, c'est-à-dire, c'est difficile d'analyser le mystère de ce que c'est que le... On a l'impression, en tant que lecteur, d'avoir accès au secret de la littérature, presque, qui laisse sans voix. Mais en même temps, Stephen King a parlé d'une calme épiphanie. L'expression est magnifique. Il a dit que chaque écrivain, en lisant Shirley Jackson, rêverait d'accéder à cette calme épiphanie, c'est-à-dire ce moment où les mots transcendent la somme de leurs parties. En essayant un peu de réfléchir à ça, moi j'ai l'impression que c'est une écriture qui se passe de ce qui est généralement ce qui constitue l'essentiel de la littérature et trop souvent sa béquille qui est la métaphore en fait. Il n'y a pas de métaphore en fait chez Shirley Jackson. Alors les écrivains qui se passent de la métaphore, comme rêvait de le faire Mallarmé, hein, il faut supprimer le comme de la langue française, disait-il, c'est quasi impossible. On est presque à un stade de folie de l'écriture d'ailleurs. Il y a un moment où se passer de la métaphore, ça met en équilibre aussi la langue et c'est ce moment. Et elle arrive comme y arrivait Simenon aussi, d'une manière, je trouve, assez proche, à faire entrer justement le lecteur dans la tête d'un discours qui serait le discours de la folie et du coup de le mettre à cet état d'angoisse énorme, tout en n'étant pas du tout, en n'écrivant pas comme quelqu'un de fou le écrirait, disons. C'est très, comment dire. Moi, je pense que tout part, comme vous le dites, d'où vient François, vous demandiez d'où viennent ces histoires. Elles viennent de cette maison. On revient toujours à la maison. On revient toujours à ce conflit. La maison qui est un conflit. Hein. Le conflit, en effet, comment écrire en préparant à temps l'heure le déjeuner à temps. Comment, elle avait un statut, d'après ce que la biographie qui vient de paraître a l'air de le dire, quand même assez effacé. En même temps, il y a ce clivage de l'écriture entre la vie quotidienne domestique et puis la vie de l'imagination, qui est le sujet de quasiment toutes ces nouvelles. Hein. C'est-à-dire ce moment carcéral, en fait. Hein. Ce lieu carcéral, qui est celui de la femme au foyer américaine, qui est l'une des plus grandes figures, je veux dire que la littérature américaine et le cinéma américain ont donné à cette figure un statut, Stephen King après elle, hein, et en hommage à elle, l'a fait. Et il y a quelque chose dans cette figure même de l'enfermement domestique, dans ce qu'il peut avoir de vraiment de totalitaire, ça sera la loterie, qu'elle a réussi à vraiment, dont elle a extrait l'essence, en fait. Donc à la fois, il y a, comme le dit sa biographe, une histoire des femmes derrière, une histoire d'un peuple invisible, pas seulement les femmes. Et en même temps, il y a un art poétique qui, je pense, tient à cette suppression de la métaphore. C'est-à-dire que tout est dit. Alors moi, elle a écrit, par exemple, hein, je citerai, je dirais pour les auditeurs, si vous voulez lire une nouvelle, par exemple, qui pour moi est un des plus beaux textes de l'histoire de la littérature, qui est Le Sorcier, hein, l'histoire de la rencontre d'une mère de famille avec un bébé et puis un petit garçon qui a 3-4 ans et puis la rencontre avec un monsieur dans un train. Et comment ce monsieur... Et c'est écrit à hauteur d'enfant. C'est écrit dans la tête d'un enfant de 3 ans. Ça tient sur 6-7 pages parce que probablement on peut pas tenir tellement plus longtemps. C'est vraiment un chef-d'œuvre, d'effroi et en même temps de drôlerie. Et il n'y a aucun, comment dirais-je... On est sur le pont, en fait. On est constamment sur le pont entre deux mondes. Mais on n'est ni dans un monde, ni dans l'autre. On n'est ni dans la folie, ni dans ce qu'elle appelle la réalité. On n'est ni dans l'enfance, ni dans l'âge adulte. On est toujours sur ce pont qui, probablement, existentiellement, devait être un exercice d'équilibre, d'équilibre constant, mais qui, pour littérairement, est vraiment d'une... Enfin, c'est une... Enfin, les mots peinent à exprimer mon admiration. C'est une de mes écrivains préférés.
Moi, j'aimerais revenir sur cette grand-mère fantomatique. Dans le texte que vous avez écrit à la fin de votre bande dessinée, vous revenez sur cette ombre. Parce que vous avez un souvenir de votre grand-mère, vous étiez petit garçon quand elle est morte. Et pour vous, cette image, c'est une ombre qui s'imprime comme ça dans la lumière, pas très loin de la cuisine d'ailleurs, je crois.
Elle est dans la cuisine.
Dans la cuisine. Et j'aime beaucoup la manière dont vous avez associé cette ombre, cette grand-mère fantomatique, avec le rituel que vous aviez en famille, qui était de vous réunir autour de cette boîte à musique qui dégageait une atmosphère. Et vous parlez d'un obscur héritage à partir de ce rituel, toute la famille qui se retrouve autour de cette boîte à musique qui vous venait donc de votre grand-mère. Là aussi, une forme d'obscurité scintillante en même temps.
Et d'ailleurs, je pense que je ne l'ai pas écrit dans le texte du livre, mais cette boîte à musique avait la réputation de se mettre en marche toute seule dans la nuit. Donc, comme quoi, elle restait avec nous pendant encore longtemps.
Sachant que l'art de sa phrase est de l'ordre de la musique.
Tout à fait, oui.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Jonathan Huliel, choix de Laurent Polleret pour accompagner notre songerie gothique et effrayante autour de Shirley Jackson, Arnaud Gonzague. Est-ce que les boîtes à musique vous font peur?
Ah bah, autant que celle de Shirley Jackson, parce que d'ailleurs vous le dites très bien dans votre texte, elle est à la fois, c'est un rituel familial et en même temps c'est un peu effrayant. Il y a quelque chose de léger, de gay et en même temps de très gothique dans tout ça. Non, je reviens sur ce que disait Hélène parce qu'effectivement, l'écrivain français, enfin francophone, auquel on pense tout de suite quand on la lit, c'est Simenon. Le Simenon de Pédigré. Et on peut penser que un roman comme La Boule Noire, par exemple, ouais, le roman américain de Simenon, n'est pas très, très éloigné de la loterie. Finalement, on tire au sort aussi, puis il y a le bouc émissaire, voilà. Mais il y a chez Simenon quelque chose de beaucoup plus satisfaisant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'il n'y a pas des stands de secrets que ça chez Simenon. Quand on a terminé un Simenon, les phrases ont révélé la chose. Alors que chez Shirley Jackson, j'ai l'impression qu'on peut relire à nouveau le bouquin et il y a encore plus de mystère, en fait. Est-ce que ça correspondait à la personnalité aussi de votre grand-mère, de ce que vous en savez? C'est une femme énigmatique.
Très, très. Et moi, je l'ai peu connue. Elle est décédée quand j'avais 3 ans. Donc, ce que je sais d'elle, c'est soit à travers toutes les anecdotes familiales qu'on raconte sur elle, ses livres, évidemment, ce qu'elle a écrit. Mais effectivement, ça donne quand même pas mal d'indices. Et d'après ce que on raconte sur elle, c'est quelqu'un qui se révélait peu. Notamment la loterie, elle a jamais voulu dire quelles étaient ses vraies intentions en l'écrivant. Donc elle entretenait entre le mystère naturel de ses romans et ses nouvelles, et puis cette réputation qu'elle avait de sorcière. Oui, c'est quelqu'un qui se dévoilait très peu. Donc l'énigme était partout dans tout ce qu'elle a écrit et une grande partie de ce qu'elle a vécu.
Et est-ce qu'autour d'elle, il y avait une sorte d'aura de mystère et d'inquiétude, ou au contraire
Je crois pas. Non, je pense que la réalité... Que
les gens lisaient ce qu'elle publiait, donc est-ce que cela, d'une certaine façon, il y avait un choc en retour, et qu'on lui renvoyait une sorte d'image un peu brouillée de sa personne?
Non, je pense qu'elle était... Elle était connue comme étant quelqu'un de très, très chaleureux, très aimant, très sociable. Elle avait énormément d'amis très proches, qui, notamment, on voit à travers ses lettres, des rapports très, très intenses, notamment avec ses amies femmes. Elle avait, une grande réputation. Elle enseignait pas, mais elle avait beaucoup de gens qui la suivaient à travers le pays, qui lisaient tout ce qu'elle écrit, notamment, je pense...
Elle a eu énormément de prix. C'est pas un poète maudit.
Elle n'a pas eu énormément de prix.
Moi, j'ai vu une liste qui est quand même... Elle a été nommée pour le meilleur récit, la meilleure nouvelle de l'année, assez souvent.
Et elle a été nominée de son vivant. Voilà. Nominée seulement pour le prix Edgar Poe. Elle a gagné après son décès. C'est vrai qu'en même temps, elle a navigué dans une zone, comme vous avez dit, en France. C'était pendant longtemps la même chose aux États-Unis. Elle était adorée et un peu détestée aussi pour ce qu'elle a écrit, parce que ce qu'elle écrivait dérangeait. Notamment la loterie.
Ben on va
pour
en parler
dessus. Oui, voilà.
On va en parler. Céline Duchesne.
C'est juste cette histoire de sorcière, quand vous évoquez le fait qu'on pouvait l'associer à cette figure-là. Est-ce que c'était une légende familiale entre vous avec ce fameux grimoire, ou alors est-ce que c'était quelque chose que pouvait renvoyer aussi le public, les lecteurs, à travers ses écrits?
Je pense que le public la percevait comme étant quelqu'un de vaguement. Démoniaque, au moins une partie de son lectorat, parce qu'il y avait aussi...
Mais pourquoi ?
Je crois que cette... Là, en parlant de Simenon, vous avez dit qu'il y a toujours une issue. Il y a une certaine cruauté, j'ai envie de dire, presque, dans certains de ses récits, et qui fait qu'on laisse pas... On n'en sort pas indemne, notamment de ces histoires les plus noires. Il n'y a pas d'héros, on ne s'accroche à rien. Et en fait, l'impression à la fin de la lecture est parfois assez désespérée. Donc pour ça, les gens qui appréciaient pas du tout ça.
Il y a un des exemples, un roman dont on n'a pas trop parlé ce soir, mais que nous avons toujours vécu au château. Oui, si on le regarde, il y a mille manières de le lire, mais il y a une manière de la lire, c'est une histoire d'amour extraordinaire entre deux sœurs, et qui est vraiment authentique,
un amour
pur entre
revient.
Deux jeunes filles, enfin il y en a une un peu plus jeune que l'autre, qui vivent très isolées, un peu contre le reste du monde, et derrière tout ça il y a des choses absolument atroces, mais l'amour pour autant qu'elles se portent l'une à l'autre.
Et elle n'avait pas de sœur, elle avait un frère avec qui elle n'était pas très proche, mais elle avait des amis très très proches.
Elle a dû rêver d'avoir une sœur. Elle a rêvé d'avoir une sœur comme Constance dans ce roman.
Et j'ai appris qu'elle avait une de ses plus grandes amitiés de jeunesse, c'était à l'université, avec une Française dans les années 30, Jeanne Bedel, et avec qui elle avait une vraie... des rapports amicaux, mais aussi intellectuels très, très intenses.
Elle ne fera pas.
Je pense que la force, le génie même, je dirais, de l'écriture, c'est que il y a une littéralité en réalité. C'est rarissime la littérature. Je disais, il n'y a pas de métaphore, mais alors encore plus rare, une littéralité, comme il y en a très peu, notamment aussi dans la littérature américaine. C'est-à-dire que si on lit la loterie, finalement, tout y est. Hein. Je suis même étonnée. Enfin, c'est passionnant les lettres de lecteurs que vous citez, mais c'est même étonnant qu'à ce point-là, on se soit interrogé sur la signification de cette nouvelle qui finalement dit littéralement ce qu'elle a à dire. Je pense à une nouvelle comme Ébriété, hein, une nouvelle où justement un personnage de jeune fille qui fait ses devoirs de latin. Prophétise la fin du monde et où littéralement justement ce caractère médiumnique de l'écriture et cette noirceur, comme vous dites, cette cruauté est énoncée. Je pense à un texte très dérangeant comme la lettre de Jimmy, une de ses plus belles nouvelles aussi, hein, où Il est question d'une femme qui veut littéralement écrabouiller la tête de son mari, mais tout est dit littéralement, et au bout d'une page et demie, deux pages et demie, on est laissé avec ça, et il n'y a pas d'arrière-plan, en fait. Il n'y a pas d'arrière-plan à quoi se raccrocher, qui serait « Ah, mais peut-être ça voulait pas dire ça, ça signifiait autre chose ». Vraiment, il y a une signification littérale, et si mystère il est dans l'écriture. Il n'est pas ailleurs que dans l'écriture.
Le quotidien le plus banal bascule d'un coup dans l'horreur. C'est ça qui est terrifiant. Et je pense que c'est ça qui dérange. C'est qu'il y a presque pas de filtre entre le vécu, ce qu'on tout le monde connaît, et la barbarie. Oui.
C'est Tessie, dit Mr. Summers d'une voix étouffée. Bill, montre-nous son papier. Bill Hutchinson s'approcha de sa femme et lui prit de force son papier. Il avait un rond noir en son centre. Le rond noir que Mr. Summers avait fait la veille au soir avec le gros crayon de son bureau à l'entreprise charbonnière. Bill Hutchinson brandit le papier et l'assemblée s'agita. « Ok les gars, dit Mr. Summers, finissons-en rapidement !» Les villageois avaient beau avoir oublié le rituel et la boîte noire des premiers temps, il se rappelait qu'il fallait utiliser des pierres. Le tas que les garçons avaient préparé d'avance était prêt. La place entière était elle-même jonchée de cailloux, auxquels se mêlaient au gré du vent des bouts de papier qui étaient sortis de la boîte. Madame Delacroix sélectionna une pierre si grosse qu'elle eut besoin de ses deux mains pour la soulever. Puis, elle se tourna vers Madame Dunbar. « Viens, dit-elle, dépêchons-nous. » Madame Dunbar avait les deux mains remplies de petites pierres. « Je n'arrive pas à courir, dit-elle hors d'haleine. Pars en avant, je te rattrape. » Les enfants avaient déjà tous ramassé des pierres. Quelqu'un donna quelques cailloux au petit Davy Hutchinson. Tessie Hutchinson se trouvait à présent au milieu d'un espace vide. Les villageois commencèrent à marcher vers elle et elle tendit désespérément les mains comme pour les arrêter. « C'est pas juste !» dit-elle. Une pierre l'atteignit à la tempe. « Allez-y, allez-y, tout le monde !» répétait Warner l'ancêtre. Steve Adams se trouvait au premier rang de la foule et Mr. Graves était à côté de lui. « C'est pas juste, c'est pas juste !» hurlait Madame Hutchinson. Et ce fut l'assaut. Voilà un extrait de La Loterie de Shirley Jackson que vous avez donc adapté et publié chez Casterman, Miles Simon. Alors, c'est une gageure absolument extraordinaire puisque c'est une nouvelle, on a parlé abondamment du style, brève, ramassée, concentrée. Tous les mots sont agencés comme des pièces d'une sorte de marqueterie verbale où, entre lesquelles rien ne passe. L'affaire est même terrible, c'est une sorte de rituel villageois. On tire au hasard quelqu'un à partir d'une urne remplie de petits papiers. Il y a une tache noire sur un papier blanc, un peu comme la tache noire dans la main de Pew l'aveugle chez Stevenson. C'est peut-être un souvenir. Et puis après, on se rend compte que tout bascule dans l'horreur. Et une horreur archaïque, puisque c'est un rituel dont on ne sait pas l'origine. Il s'agit de lapider à mort la personne qui a le papier avec une tache noire.
Attention, spoiler.
Alors voilà, on dit la fin. Mais enfin bon, peu importe. Comment avez-vous travaillé, parce que cette nouvelle, publiée en 48 dans New Yorker, a déclenché une espèce de panique. Je parlais de Wells avec sa radio hantée auprès des Américains. On lui a écrit, mais qu'est-ce que c'est? Ça a lieu où? Qui fait quoi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? J'arrête de m'abonner. C'est un scandale. Qui est cette femme? Enfin, véritablement, Shirley Jackson est devenue là comme si elle avait révélé une sorte de péché originel, le crime fondamental de la société américaine. Allons-y. Alors voilà, bon, c'est quand même une nouvelle forte, puissante, célèbre dans toute l'Amérique. Et vous l'avez adaptée. Et pourtant, cette nouvelle, il n'y a rien où se raccrocher, si j'ose dire.
C'est vrai.
Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de place de grève, il n'y a pas de machinerie. On est dans la chronique villageoise.
C'était un défi assez terrifiant. J'avoue, surtout au début, où j'ai lutté pas mal avec comment entretenir cette angoisse qui vient peu à peu dans l'histoire. Comment aussi transmettre une partie des renseignements qui nous arrivent par un narrateur omniscient sous forme visuelle. D'où donc la création de ces premières séquences qui sont quasi muettes.
Ça commence un peu comme les tueurs de Siodmak, oui. Deux messieurs qui arrivent dans une ville et on ne sait pas très bien ce qu'ils font là, mais bon, on est angoissé quand même.
Oui, mais et surtout, on apprend donc dès les premières pages qu'il y a cette boîte qui contient des bouts de papier et avec une qui a une tache noire. Sinon, il fallait l'expliquer. Je préférais le montrer. Et comme ça, le lecteur a, dès cette première scène, déjà un sens d'angoisse. Ça se passe la nuit dans une petite pièce et on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Mais aussi, on a les outils de base de ce qui va devenir le drame qui suit. Donc, c'était important pour moi. J'ai pris du temps. Je pensais, dans un premier temps, peut-être faire une version illustrée, texte et images à part, avec le texte original. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure que j'ai travaillé de plus en plus en bande dessinée, notamment avec l'aventure d'Alien Noir et avec Elroy et Matt. Ça me semblait qu'il fallait le faire comme ça. Il fallait absolument un peu rentrer dans l'histoire avec une telle intimité qu'on pouvait avoir cette même malaise qu'a les lecteurs quand ils lisent l'histoire. Et pour ça, il fallait prendre son temps. Ma bande dessinée, vous avez dit qu'il y a 11 pages de la nouvelle d'origine. Là, je crois qu'on est à 130, 140 pages. Et pourquoi prendre ce temps? Je crois qu'il fallait vraiment dévoiler petit à petit l'endroit, les personnages, et vraiment bercer cette angoisse petit à petit. Pour qu'à
là,
la
j'aime
fin...
beaucoup cette expression, bercer l'angoisse. Ouais. Parce qu'effectivement, quand on prend le déroulement du récit, vous attachez beaucoup de place évidemment, au cadre villageois, aux intérieurs. Il y a des planches entières qui pourraient se trouver, je dirais, dans une bande dessinée réaliste, qui met en scène un mélodrame sans horreur, sans fantastique. Et peu à peu, comme dirait l'autre, c'est le tour des crous, le garrot se resserre, ça devient de plus en plus étouffant, le confinement agit et à la fin ça s'accélère et ces petits papiers blancs deviennent insupportables.
Une des choses qui est le plus surprenante dans les lettres que les lecteurs du New Yorker ont envoyées, et c'est la nouvelle qui a provoqué le plus grand nombre de lettres de protestation de l'histoire du magazine, mais une grande partie pensait qu'il s'agissait d'un événement réel. Et qu'elle documentait donc quelque chose qu'elle avait observé quelques jours ou semaines plus tôt. Et je me suis dit, pour transmettre ce même effet, pour le communiquer dans le dessin, il fallait un réalisme qui était un petit peu plus pointu que d'habitude chez moi.
C'est presque photographique. Quelque chose d'immobile. On a l'impression, sur certaines cases, que vous avez pris des photos, des vieilles photos d'époque que vous avez redessinées. Il y a quelque chose de cet ordre-là.
Au moins, sans être hyper réaliste, je voulais que les gens puisse imaginer que j'avais observé la scène moi-même, que je l'avais dessinée à partir de quelque chose que j'avais vu moi-même et un peu documenté en direct.
Sauf que les yeux des personnages vous montrent tout de suite qu'ils ont quelque chose à cacher. Les paupières sont particulièrement lourdes et le regard est fuyant et presque intérieur alors qu'il est tout le temps ouvert devant nous. C'est ce contraste, moi, que j'ai trouvé fascinant dans vos personnages.
C'était très important. Je suis très content que vous ayez vu ça. Et en fait, c'est, d'une part, ça se passe au mois de juin sous un soleil écrasant. C'est le 27 juin.
27 juin.
Avec un soleil qui vient un peu... pas aveugler les personnages, mais au moins rendre leur regard difficile pour nous à déchiffrer. Et c'est très important parce qu'il y a une partie, je dirais, on est dans une place de village, un beau matin de juin, il y a 300 villageois, mais il n'y a qu'une douzaine qui jouent vraiment un rôle dans l'histoire. Tous les autres sont des espèces de figurants qui, par moments, prennent presque des formes d'objets. Et donc, il fallait qu'on lit sur leur visage quelque chose d'inquiétant sans savoir exactement de quoi il s'agissait. Et ce n'est qu'à la fin qu'on a des expressions plus tendues. Mais tout le reste exprime une certaine d'angoisse retenue. Et c'est ça qui est
important. Parce que c'est ça qui fait la densité, la suffocation presque que l'on ressent à vous lire, Mal Simon. Enfin, je vais même dire que c'est un très bel album de bande dessinée qu'on est très heureux de le lire. Enfin, c'est pas une expérience atroce. Mais quand même, c'est quand même un récit horrifique sous une apparence, je dirais, de juin ensoleillé, de vide provincial et de rituel entre soi. C'est quand même quelque chose d'affreux. Et peu à peu, on a le sentiment de cette horreur, mais on ne sait pas où l'accrocher. C'est un peu comme une espèce, il n'y a pas de pater, si j'ose dire, où accrocher le vêtement ou poser les choses. Il n'y a rien où se poser. On a un sentiment comme ça d'horreur croissante, mais qu'on ne raccroche à rien, ce que disait Hélène. Et ça, comment on le rend dans le dessin, d'arriver à rendre le décor, ma foi, c'est un décor comme il y en a d'autres, comme il y en a des milliers, des millions, des villages comme il y en a des millions, mais celui-là, il est particulier. Comment on arrive à faire planer dans l'air quelque chose d'atroce?
Alors, avec son crayon, parlons justement du décor, parce que c'est également comme la maison dans la maison hantée. Le village est un personnage de l'histoire presque. On a un décor. Déjà, il fallait que ce soit dans un village de la Nouvelle-Angleterre, même si elle est vague. Elle vivait dans le Vermont à l'époque, mais on ne sait pas trop si c'est le Massachusetts, le New York, le Connecticut. Mais par contre, l'architecture de la Nouvelle-Angleterre est particulière. Il y a encore des squares de villages à l'européenne. Quelques décennies plus tard, on est dans le Midwest ou l'Ouest, et là, c'est le Main Street qui prend le relais, mais à l'époque, on est encore dans un lieu fermé, un lieu clos. Et la nouvelle est en fait une sorte de huis clos. On est dans un espace confiné. On peut imaginer qu'on aurait du mal à s'en sortir. Et justement, à la fin, tout se passe là. Le théâtre de l'acte est entièrement dans ce square. Donc, il fallait que l'architecture ait cette rigueur, un peu puritain, un peu shaker, cette rigidité, les angles droits, qui reflètent un peu l'état d'esprit des personnages. Qu'on est vraiment dans un lieu, comme la maison hantée, un lieu qui reflète l'état d'esprit des participants à la cérémonie.
Elle ne fera pas.
Ce que je trouve assez fascinant et assez beau en pensant à ce travail d'écrivain qui est repris de génération après par un travail de peintre, en fait, c'est la question du temps, en fait, de la temporalité, c'est-à-dire que vous créez une dilatation du temps, vous introduisez de la temporalité, enfin, votre travail pictural introduit une temporalité là où on pourrait penser que c'est que la temporalité est du côté du récit, de la littérature et moins du côté de la peinture. Là, étonnamment, je trouve qu'il n'y a pas de temporalité dans la nouvelle de Shirley Jackson, et c'est vous qui l'introduisez dans cette sorte de dilatation de cette journée qui n'en finit pas. C'est ça que je trouve assez fascinant.
Simon.
Et qui ajoute à cette angoisse dont parle.
C'était peut-être, je dirais, l'audace de l'adaptation, et il en faut. Parce que si on adapte directement un récit, on peut estimer que ça n'a peut-être pas d'intérêt, mais l'audace que je me suis permis de faire, c'était d'imaginer cette scène antérieure, cette scène nocturne, qui pour moi était la belle occasion déjà d'entrer dans le jeu, mais aussi on voit Tessie le matin qui se perd dans ses pensées, qui prend un bain, et en fait dans la nouvelle, elle arrive en retard pour la cérémonie. Mmh. Sans qu'on ait vraiment l'explication de pourquoi, elle dit juste qu'elle faisait des tâches ménagères, je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à créer. Et effectivement, ça donne d'une part une sorte de point d'arrivée dans cette square, chose qui n'est vraiment pas présente dans la nouvelle. On est directement, la première phrase, c'est les enfants qui sont en train de cueillir les pierres dans le square même. Mais d'une part, je me suis dit, visuellement, il faut qu'on se sente chez soi. Il faut déjà qu'on ait une telle impression de confort et d'être dans un lieu connu, et que ça allait augmenter la terreur quand on découvre qu'en fait ce qu'on pensait connaître n'est pas du tout quelque chose qu'on maîtrise.
D'autant plus qu'effectivement, toutes les images, si on les prend une par une, aucune n'est atroce. C'est le remboîtage qui est effrayant. Alors, comment avez-vous fait le découpage? C'est quand même vraiment une question, si vous étiez un cinéaste. Parce que huis clos, peu de personnes, un acte, un résultat. Il s'agit donc d'un découpage millimétré, de quelque chose d'extrêmement très, très, très serré. Comment découpe-t-on une histoire pareille? Parce que c'est long, c'est une centaine de pages, ce qui est quand même énorme pour une bande dessinée.
Et alors, mon souhait, vraiment le plus important, c'était d'être très respectueux et fidèle au dialogue, les séquences narratives. J'ai fait plein de choses avec, mais je crois que tous les dialogues, les phrases dites par les personnages sont préservées. Là où je me suis dit qu'il fallait trouver une solution, c'était bon, si on montre cette longue scène où en fait les trois quarts c'est Monsieur Summers qui appelle des noms. Il fallait trouver une solution.
Déjà, ça, c'est inquiétant.
Visuellement, oui, ça, c'est inquiétant. On va comprendre pourquoi. Mais pendant que ça se passe, on ne sait pas ce qui se passe. Il fallait animé cette scène par plein de façons différentes. Parfois, on est dedans, parfois, on voit la scène de loin. Parfois, les noms qui sont appelés sont représentés par des espèces de portraits de famille où on voit la famille devant leur maison. Il fallait que l'importance de ce qui est sur le point de se passer, où il y a une famille qui va être choisie dans un premier temps et puis un membre de la famille qui va être choisi dans un deuxième tirage, que le poids et l'enjeu commencent à se sentir. Dès ces premiers portraits, dès ces premiers visages qui entendent leur nom et qui se rapprochent de la boîte.
Parce que vous donnez le sentiment, bon, c'était des vues de groupes familiaux, mais qui sont ces gens? Sont-ils vivants? Sont-ils morts? Le lecteur finit par se demander si c'est des morts, si c'est des vivants, est-ce que ce sont des criminels qu'on a photographiés avant que le délit se produise? Il y a une sorte de suspension des portraits qui en rajoute un peu sur la terreur qui est induite dans le récit.
Mais je dirais que même ça, dans la nouvelle, elle entretient un peu. Il y a certains personnages qui sont mis en valeur. Madame Dunbar, par exemple. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi elle compte? Pourquoi elle est importante? En fait, on peut imaginer tout un tas de choses. On peut deviner. Est-ce que c'est son mari qui a été sacrifié l'année précédente? Est-ce qu'il y a des absents? Pourquoi ne sont-ils pas là? Il y a tout un tas de portes qui sont ouvertes pour revenir à la maison hantée, les portes ouvertes qui mènent dans les couloirs et on ne sait pas où ça va. On peut y aller ou pas?
C'est probablement pour ça qu'on a tellement, à l'époque où la nouvelle est parue dans le New Yorker, on a tellement cru que c'était vrai. C'est précisément parce que la réalité, c'est ça. Il y a toujours des éléments qui manquent.
Tout à fait.
La loterie, tirer le bon numéro, on vous le souhaite, de Mal Simon, d'après justement une nouvelle célébrissime de Shirley Jackson. C'est aux éditions Casterman. Deux chroniques pour finir, deux recommandations, la première avec vous. Donc, Monsieur Désir, point d'interrogation, chez Glénat, de Hubert Augustin, bande dessinée, Arnaud Gonzague.
Oui, et le point d'interrogation, vous faites bien de le souligner, il est important parce qu'on ne sait pas trop ce que Monsieur Désir...
Le sait-il lui-même.
Voilà, et Monsieur, justement, cette BD souffle sur une énigme. Le Monsieur en question, c'est un lord... britannique, on est à l'époque victorienne, il s'appelle Lord Edward. Il est très riche, il est très beau, il est très jeune et il est très débauché. Et le mystère de cette BD, c'est qu'il s'entiche d'une de ses bonnes, qui s'appelle Lisbeth, et qui n'a rien pour elle. Elle est très ordinaire, elle n'est pas spécialement belle, elle n'est pas spécialement intelligente, elle n'a pas l'air spécialement dessalée, mais il s'entiche d'elle et il veut faire d'elle... le témoin de ses propres turpitudes. Donc il lui dit de venir, il lui raconte toutes les horreurs, les dépravations qu'il fait subir aux autres, etc. Il veut qu'elle l'accueille le soir quand il rentre de ses débauches, de ses souleries dans un état... Et en même temps, il ne se passe rien d'autre de plus que ça. Et personne ne comprend pourquoi, dans la maison évidemment ça fait scandale, pourquoi Lisbeth est privilégiée par rapport aux autres, pourquoi ce dandy s'intéresse-t-il à elle, et on ne comprend pas très bien. Évidemment, le lecteur, lui, comprend que la dépravation existe surtout dans l'œil de celui qui la regarde, et que c'est ça, évidemment, qui intéresse le dandy.
Donc c'est une psychanalyse.
Oui, absolument, mais ça ne fonctionne pas, parce que comme vous le disiez au début de l'émission, le rapport de force qu'on croit au début très instauré ne termine pas tout à fait comme on le pensait. Je vais juste ajouter qu'il y a dans cette BD quelque chose qu'on ne trouve pas beaucoup ces derniers temps, dans la BD d'aujourd'hui, qui est une certaine cruauté. Le scénario d'Hubert est très remarquable parce qu'il montre très très violemment qu'est-ce que c'est que la violence sociale, en fait.
Hubert et Augustin, Monsieur Désir, c'est chez Glénat. Une préconisation, ma chère Céline.
Oui, c'est L'origine du monde de Liv Strömquist aux éditions Rackham. Donc une BD qui nous vient de Suède avec Liv Strömquist, 38 ans, bédéaste star, qui est vraiment formée par les sciences politiques et qui s'intéresse beaucoup aux structures du pouvoir et aux mécanismes de domination. Et alors, cette bande dessinée est consacrée à l'origine du monde, évidemment clin d'œil au tableau de Gustave Courbet, à savoir le sexe féminin. Donc c'est un essai sous forme de BD sur l'organe sexuel féminin, un chapitre sur la vulve,
vulve, l'orgasme, le clitoris, les règles, un peu biologique il est vrai, mais surtout politique, la représentation culturelle du sexe féminin dans l'histoire, un chapitre qui est consacré à nos chères sorcières, donc à la chasse aux sorcières entre le 15e et le 18e, où l'on comprend que au cours d'un certain procès, on a reconnu une sorcière au fait qu'elle avait, est-il écrit, une drôle de mamelle située dans un endroit discret qu'il serait inconvenant d'observer, à savoir le clitoris qui fait beaucoup de sorcières sur Terre.
On rappelle le nom donc.
L'origine du monde de Liv Strömquist aux éditions Rackham.
Merci Céline et on termine cette émission comme de juste avec Christophe Beer, mais pour quelqu'un dont le style, faut le lire, est à l'opposé de celui de Shirley Jackson.
Corps et liens, publié par Rivière Blanche, est le titre référence de la réédition de trois romans d'un des auteurs les plus personnels de la collection Gore du Fleuve Noir de la seconde moitié des années 80. Corsélien, alias Pascal Mérignac, responsable de polars tout aussi surprenants sous le nom de K.A. L'état des plaies, bruit crissant du rasoir sur les os et retour au bal à Dahlstein traitent de l'essence du mal absolu. Professeur de philosophie, Mérignac voit dans la fiction gore un avantage que l'écrit théorique ne possède pas. Elle permet d'accéder à une poésie glaçante du mal, d'en approcher plus facilement le chaos. Le mal, scruté par Corsélien, n'est pas rigoureux et maîtrisable, refuse les schémas d'intrigue rassurantes, le folklore mythologique. Un gore psychologique enferme les enquêteurs, personnages banals bientôt saisis d'effroi, au cœur de décors provinciaux dépourvus d'étrangeté. Un adjudant de gendarmerie sillonne la campagne de l'Aubrac à la recherche de loups cerviers, résurgence sadienne de la bête du Gévaudan. Un médecin de campagne, dans les Pyrénées cloué dans la chaleur, suit des séminaristes préleveurs sauvages d'organes. Un professeur d'histoire se perd dans une Moselle carbonisée. Ses anti-héros sont happés par le nihilisme grinçant de l'auteur. Lucide, il se délecte bientôt de la peur répulsive, fasciné par le mal, contrairement aux victimes tétanisées qui jonchent les récits, corps déchiquetés par les crocs, écorchés vifs, fondus et calcinés. Il succombe, mais en pleine conscience. Personnage d'ivresse, le héros corsélien écluse son whisky et s'enivre d'abomination. Un ange au scalpel exterminateur, épluchant l'épiderme des vivants, une gamine perverse au sein menu, sont leur trop fatale séductrice. L'écriture précise de Corsélien oublie son ironie sociale, à son tour emportée par l'abjection, libérant d'inoubliables visions d'horreur. Muni de lunettes de soudeur, Vanda arme le lance-flamme. Une mère supérieure entre en ébullition, le dortoir de l'orphelinat s'embrase. Les enfants ne hurlèrent pas, ne tâchèrent point même de fuir par la porte de l'autre côté. Tout se mit à flamber dans une démence absolue, 20 corps se tordant ensemble, en une sorte d'harmonie insoutenable.
Merci Christophe Beer. Je rappelle les ouvrages dont nous avons cité, travaillé, évoqué ce soir. Bien évidemment, La Loterie de Mal Simon, d'après chef-d'œuvre, donc la nouvelle de Shirley Jackson. C'est Casterman, un pari redoutable mais totalement abouti, donc d'adapter cette célébrissime nouvelle du fantastique américain. Si vous voulez en savoir plus sur Shirley Jackson, je recommande En Rivage Noir, deux nouvelles traductions. La première, Nous avons toujours vécu au château, un de ses romans les plus classiques et les plus célèbres, et La Maison Hantée, on connaît le film qu'en a tiré Robert Wise, également en chronique Monsieur Désir de Hubert et Augustin chez Glénat, et L'Origine du Monde, une bande dessinée de Liv Strömquist aux éditions
Rackham.
Merci Céline, toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Pollereau, Olivier Dupré, Claire-Martin Dugard, Anaïs Isbert, Céline Duchesnel, Anne Frappard, Nogonza, Gonzac, Christophe Viré, François Angelier. Vous remercie d'avoir suivi cette émission. Merci Mal Simon d'avoir été notre invité. Merci. À se revoir, peut-être pour une nouvelle adaptation de Shirley Jackson. On se retrouve samedi prochain dans Mauvais Genre sur France Culture à 22h. Il sera cette fois question de Love Doll japonaise avec leur grande spécialiste Agnès Giard. Bonsoir à tous.
To tell you the truth, I didn't think we could do it.
The truth is that I...